Matin Première, l'invité.
Et cette question, les imprimantes 3D vont-elles changer le monde? C'est cette question que vous allez tenter de répondre ce matin, Robin Cornet, avec vos invités.
Le professeur Tournesol l'avait imaginé, cette imprimante 3D. Désormais, ce n'est plus de la science-fiction. Il est bel et bien possible de fabriquer chez soi des répliques exactes d'objets plus ou moins complexes et d'imprimer littéralement les pièces dont les plans sont issus de votre imagination. L'imprimante 3D aura plus d'impact encore que l'Internet. C'est ce que prédisait l'un des gourous américains des nouvelles technologies. Et comme d'autres, Chris Anderson parle d'une 3e révolution industrielle. Après le passage au 19e siècle d'une économie agraire artisanale vers l'industrialisation et la production de masse, il se pourrait qu'on revienne vers des modèles de production désormais à plus petite échelle, en fabriquant localement au lieu d'importer massivement d'Asie. La technologie 3D, ce n'est pas neuf, mais c'est sa démocratisation qui l'est. Désormais, pour 1000 euros, voire moins, vous pouvez avoir chez vous de quoi imprimer des objets assez simples. Alors aura-t-on tous dans 10 ou 20 ans, entre le percolateur et la télé, une imprimante qui créera tout ce dont nous avons besoin? Et faut-il craindre les bouleversements que cela amènerait? Eh bien, c'est ce qu'on va voir avec nos invités. En duplex depuis Liège, Thierry Dormal du centre de recherche CIRIS. Bonjour.
Bonjour.
Vous dirigez le département des techniques additives dans ce centre qui est plutôt à la pointe en Europe et vous produisez à l'aide d'imprimantes sophistiquées des objets d'une grande précision. Vous nous expliquerez ça. En duplex cette fois depuis Mons, il y a Bouchaïb Tamaoui. Vous êtes à la tête d'une entreprise de formation par le travail. Vous avez misé sur l'imprimante 3D pour développer vos activités et vous nous direz pourquoi. Bonjour Bouchaïb Tamaoui.
Bonjour.
Et à vos côtés, Pierre Carolagui, français, c'est votre partenaire dans un projet européen d'assemblage d'imprimantes 3D. Bonjour.
Bonjour.
Pierre Carolagui, peut-être pour commencer, expliquez-nous concrètement comment ça marche. C'est quoi le processus ?
Oui, alors moi je ne suis pas un spécialiste de l'impression 3D parce que le processus est simple et compréhensible à peu près par tous. En fait, vous avez, on sait comment marche une imprimante qui imprime sur une feuille en deux dimensions, donc. Hein, et l'imprimante 3D, en fait, on rajoute une dimension, c'est-à-dire que la petite tête de lecture de l'imprimante, la petite tête d'impression, elle se déplace de droite à gauche, de gauche à droite, mais aussi en hauteur. Et petit à petit, la tête monte, dépose un petit filament de plastique qui chauffe, qui refroidit tout de suite, et petit à petit, donc, on crée un objet.
Et c'est quoi les matériaux utilisés? C'est du plastique alors ou il peut y avoir différentes choses?
Il peut y avoir différentes choses. Dans les, disons, les imprimantes les plus abordables, les plus, celles qui sont dans les prix que vous citiez tout à l'heure, entre 1000, un peu moins de 1000 euros, un peu plus de 1000 euros. Mm-hmm. En fait, c'est un petit fil de plastique. Alors, il y a du plastique à partir d'amidon, du PLA. Il y a différents types de plastique après, à partir d'ABS. Voilà. Mmh. Le consommable est un petit peu plus cher que à l'usage, effectivement, un petit peu comme l'encre des imprimantes.
Combien les matériaux, justement, 1000 euros pour l'imprimante, et si on veut commencer à fabriquer des objets?
Un kilo de plastique, ça doit coûter autour de 70 euros, quelque chose comme ça.
D'accord, avec ça, on fait déjà un bon grand saladier, par exemple.
Voilà, et puis bon, on fait des essais aussi avant d'arriver à faire un saladier qui tient debout. Voilà.
D'où viennent ces matériaux? Où est-ce qu'on peut trouver ça? Ça se vend déjà?
Oui, alors écoutez, là, dans le détail, je le sais, je pense que sur Internet, on trouve plusieurs fournisseurs. Après, il faut comparer un petit peu les prix. Mais en fait, disons, la démocratisation, c'est un peu ce que vous disiez. C'est-à-dire que les imprimantes 3D, avant, il y en avait qui existaient, qui restaient dans le champ industriel. L'intérêt maintenant, c'est que de chez soi, de chez Internet, on peut en commander une, on peut l'assembler. On trouve des fournisseurs. Petit à petit, les prix aussi du consommable, donc du plastique, baissent. Et au lieu d'avoir ça dans une grande usine ou dans un grand laboratoire, effectivement, on peut le mettre dans une école, on peut le mettre dans un atelier avec des amis. Voilà, le changement, il est surtout là.
Alors, il faut quand même avoir des plans pour donner l'ordre à la machine de fabriquer un objet précis. Est-ce qu'on peut les créer, ces plans, sans être ingénieur? Ou est-ce qu'il faut absolument les trouver ailleurs, les télécharger sur Internet? Comment ça se passe, ça?
Alors, on peut les créer soi-même, bien sûr. Donc c'est là aussi que la démarche de formation est intéressante, la démarche de Samir et celle à laquelle on participe aussi. C'est-à-dire qu'en construisant une imprimante 3D, on fait aussi, on apprend aux jeunes avec qui on travaille à programmer leurs objets. Alors, on commence par des objets simples, des formes simples, et puis après on peut aller vers des formes plus compliquées. Donc ça, c'est une chose. Donc le vrai plaisir, c'est ça. Et il y a aussi maintenant, dans ce mouvement, en fait, beaucoup de gens qui partagent des objets qu'ils ont déjà créés. Ce qui fait que quelqu'un qui connaît rien, il peut déjà voir un peu comment ça marche en expérimentant à partir d'un objet dont le plan est prêt, a été créé par la communauté, disons, des usagers des imprimantes 3D.
Alors, on peut aller très loin dans ce genre de technologie. Thierry Dormal, vous travaillez au centre de recherche CIRIS, on le disait. Et là-bas, vous avez certaines imprimantes qui sont très perfectionnées. Vous arrivez à faire quoi, par exemple?
on travaille un petit peu dans tous les domaines. Hein. Ça concerne aussi bien l'aéronautique, le spatial, l'automobile, même l'architecture, la bijouterie, l'archéologie, un peu tous les domaines finalement.
Dans l'aéronautique, vous parvenez à créer des pièces qui vont être utilisées par exemple sur des avions et des choses comme ça sans risque ?
Oui, tout à fait. Maintenant, si ces pièces doivent être certifiées en vol, ça prend quelques années évidemment en aéronautique pour les valider, les certifier, etc. Mais tout ça est en cours actuellement. Y a pas mal de pièces aussi qui servent pour le domaine spatial, que ce soit en vol sur satellite ou au sol déjà comme outillage. Hein. Il faut savoir que dans ce genre d'application, rien que pour le spatial, diminuer le poids d'une pièce, diminuer d'un kilo, ça représente 25 000 euros pour eux. Donc faire des pièces allégées, comme on peut les faire par ces technologies, vous permet vraiment d'avoir des pièces très optimisées et beaucoup plus efficaces. Mmh. On peut faire des pièces avec des canaux internes, on peut faire des pièces avec des structures en nid d'abeilles à l'intérieur. Tout ce qui est possible de dessiner en 3D est réalisable par ces imprimantes 3D ou ces techniques additives. Mmh. Il faut dire qu'on part tout à fait à l'inverse de ce que tout le monde connaît au niveau de l'usinage ou de la sculpture. On ne part pas d'un bloc et on n'enlève pas de la matière. On ne fait qu'en ajouter. Mmh. On ajoute couche par couche. Donc c'est ça qui permet de faire des géométries finalement totalement irréalisable auparavant.
Alors plusieurs questions se posent, et peut-être spécialement sur ces produits de haute précision, on parle même d'implants, de prothèses qu'on peut mettre dans le corps humain, sur ces produits de haute technicité, comme sur les produits les plus simples, se pose la question de la propriété intellectuelle. Ces plans vont circuler sur Internet, vont potentiellement pouvoir être téléchargés par des particuliers équipés de petites imprimantes, est-ce que c'est inquiétant ça ?
Pour le biomédical, je ne crois pas que c'est inquiétant dans un premier temps. Quand je vois ce que nous, on réalise pour le moment, par exemple au niveau de pièces qui rentrent dans des disques intervertébraux et qui doivent évidemment être placées dans la colonne vertébrale par des chirurgiens, ça ne risque pas d'atteindre le particulier pour le moment, je ne crois pas.
Mais par exemple, voilà, sur des produits de design ou sur des pièces, par exemple, automobiles, on peut imaginer ce genre de choses aussi. Là, on risque d'avoir des brevets allègrement violés.
Tout à fait. Au niveau des brevets, il faut dire que bon, il y a des géométries 3D qui se retrouvent dans des bibliothèques sur le web sans problème, qui sont parfois gratuites, qui sont parfois payantes. Et tout ça peut créer des problèmes de propriété intellectuelle, mais ça peut créer aussi d'énormes problèmes de sécurité. Si on imagine que vous dessinez un objet, un jouet pour un enfant de 2 ans et que vous lui donnez, alors qu'il n'est pas dans le matériau réellement accepté habituellement, vous risquez d'avoir des problèmes. Mmh. Si vous fabriquez une pièce pour l'automobile, pour votre voiture, et que vous remplacez une pièce assez importante au niveau de la sécurité, le jour où vous provoquez un accident, là, rien n'est prévu pour le moment à ce niveau-là. Donc là, il y a énormément à faire au niveau juridique pour suivre tout ça.
Est-ce qu'on finira, à votre avis, par passer de plus en plus de la vente de produits finis à la vente de fichiers avec des plans prêts à imprimer ? Est-ce que ça va bouleverser la donne sur le plan économique à ce point-là ?
Oui, tout à fait. Mais maintenant, c'est vrai que ça concerne essentiellement des domaines comme le biomédical ou l'aérospatial au niveau des pièces réellement produites, je veux dire des pièces de production. Mais toutes les technologies dont on parle ici sont déjà utilisées depuis 20 ans pour faire des prototypes. Et ça sert énormément dans le développement d'un produit, dans l'optimisation d'un produit. Maintenant, ça a déjà révolutionné toute la conception de produits depuis 20 ans grâce à ce côté prototype.
Et si ça se répand dans le grand public, est-ce qu'on peut imaginer dans 10, 20 ans, voire plus, de grands bouleversements sur les méthodes de production ?
Oui, surtout, je crois, au niveau de la délocalisation, parce que ce qui est intéressant, c'est qu'on n'a plus besoin de faire ni de moules, ni d'outillage. On sort directement les pièces, avec éventuellement une finition dessus par après, hein. Mais ça veut dire qu'on peut produire les pièces proches des clients, mais aussi proches de l'endroit où on va prendre les matériaux. On peut supposer qu'en Ardennes, on va se baser sur une production de pièces en bois, de manière à limiter le transport des matériaux de base.
Mmh. On peut imprimer des pièces en bois, vous dites ?
Il y a déjà des technologies, tout à fait, oui, il y a déjà des technologies qui permettent de travailler soit sur du bois, soit sur même du papier. Là, on rejoint vraiment l'imprimante 2D, hein, comme on le disait tout à l'heure, parce que c'est vraiment des feuilles de papier qu'on vient coller l'une sur l'autre, ce qui donne des pièces finalement qui ont un aspect quasiment comme du bois.
Est-ce que ces technologies auront un jour raison de l'usine du monde, de la Chine ? Est-ce qu'on finira par arrêter d'importer autant de l'extérieur, d'Asie ou d'ailleurs, et à produire plus localement ? C'est une évolution qui est probable ?
C'est une évolution qui est probable, c'est clair, mais on ne va certainement pas y arriver en 2-3 ans. C'est déjà annoncé par des consultants américains depuis 10 ans d'avoir des petites imprimantes comme celle-là dans le salon et de commencer à les utiliser. Il a fallu déjà 10 ans par rapport à leurs prévisions. Maintenant, il y a encore pas mal d'évolutions technologiques qui sont nécessaires pour arriver vraiment à avoir les bonnes technologies, les bons matériaux, les bonnes propriétés de ces matériaux, etc. Mais c'est un domaine qui évolue énormément. Depuis 20 ans, ça évolue environ de 25 à 30% par an. Il y a très peu de domaines technologiques qui peuvent se vanter d'avoir une évolution aussi extraordinaire. Donc ça continuera à évoluer, ça c'est clair, et même probablement plus vite encore qu'actuellement.
Bouchaïb Samaoui, vous êtes à la tête d'une entreprise de formation par le travail et vous avez misé sur ces technologies. Est-ce que vous pensez quelque part que ça peut être une chance pour l'Europe, notamment en termes d'emploi, ces technologies qui permettraient de produire plus localement ?
Oui, je pense réellement que cette technologie ne peut qu'être porteur d'emploi. Ce qu'on entend aujourd'hui, la diversité, je dirais, des matériaux utilisés, la diversité des imprimantes qui existent sur le marché, ça veut dire qu'il y a une progression. Donc, et ça aussi, cette technologie, il va dans le bon sens en termes de développement durable, parce que c'est une émergence de la logique do it yourself, c'est-à-dire penser global et agir local. Donc c'est quelque part, ça donne des possibilités pour, je dirais, pour des futures personnes qui sont formées de trouver un endroit et exercer leurs compétences. Nous avons misé au jour d'aujourd'hui sur l'imprimante 3D pour augmenter le champ de vision de nos stagiaires et de dire que c'est une technologie qui peut les porter vers le haut, vers des compétences dans la nouvelle technologie. Au jour d'aujourd'hui, je me réjouis de dire, tiens, mais il faut absolument tenir compte de la propriété intellectuelle, il faut tenir compte de la sécurité. Ce sont tous des éducations qu'on peut juste les inculquer par un programme de formation, que demain, ces personnes-là, quand elles vont se trouver dans l'entreprise, elles vont prendre conscience et aller dans le sens de la professionnalisation. Demain, la création, demain, trouver ces imprimantes sur le marché, il faut qu'il y ait des personnes qui peuvent les assembler, il faut des critères de qualité de l'assemblage, il faut absolument qu'il y ait des réparateurs, je dirais, dans ce domaine, il faut des gens qui peuvent assurer la conception des objets 3D, il faut quelqu'un qui assure aussi, après impression, de faire toutes les procédures et, je dirais, la chaîne de logistique. Donc il y a vraiment un éventail d'emplois possibles.
Oui, un grand potentiel. Ça limite aussi les coûts de transport, vous avez dit, les coûts écologiques. Est-ce que vous pensez qu'à terme, au lieu d'aller chercher par exemple des objets de décoration ou de meubles dans des fournisseurs qui importent cela du monde entier, des grandes chaînes de distribution, est-ce que vous pensez qu'on ira chez le petit marchand du coin qui imprimera, je ne sais pas, des lampes de chevet par exemple ou des choses comme ça ?
Je pense que c'est une possibilité de valorisation des patrimoines locaux. Je dirais, demain, un artisan, il peut se prétendre à créer les objets qui sont liés à son environnement et par rapport à ses festivités. Je pense que oui, pourquoi pas demain, des gens qui vont se spécialiser et créer des produits locaux qui répondent vraiment à un besoin local. Et là, on peut parler même de la géomarketing. Donc, par rapport aux besoins locaux, on peut produire des produits locaux qui répondent vraiment aux besoins.
Vous pensez que ça peut inverser certaines dynamiques mondiales en termes économiques et c'est peut-être une chance pour la Wallonie, pour la Belgique ?
Tout à fait. Donc je pense, comme je l'ai dit tout à l'heure, on rentre vraiment dans la logique du développement durable. Donc c'est vraiment penser global et agir local. Donc selon des principes de développement durable, créer soi-même, chez soi ou dans les environnements sans recourir à des ouvriers sous-payés à l'autre bout du monde. Donc ça, c'est toutes des logiques qui ne peuvent que renforcer, je dirais, l'émergence de cette technologie.
Eh bien, merci beaucoup. Des évolutions impressionnantes, hein, Marie.
On verra tout
ça
à fait.
Évidemment dans les années qui viennent.
Possibilités multiples, les révolutions en cours à suivre. Merci Robin, on se retrouve demain avec un nouvel invité à 7h40 sur la première.